Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, ce soir notre troisième rencontre autour d'une question apparemment très simple, ou d'une thèse apparemment très simple, les femmes changent tout. Les femmes changent tout, le féminin change-t-il tout? C'est ce dont nous allons parler ce soir avec Jacques André, psychanalyste, qui dirige au PUF la collection Petite Bibliothèque de Psychanalyse et dont de tout dernier titre personnel s'intitule « L'inconscient est politiquement incorrect ». Bonsoir Jacques André.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci beaucoup d'être venu ce soir pour discuter d'un thème dont l'intitulé que je propose vous a peut-être surpris, voire choqué, voire plongé dans la perplexité. Les femmes changent tout. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne manière de nommer une question contemporaine et peut-être ancienne pour vous?
Pour moi, surtout très ancienne, contemporaine sans l'ombre d'un doute, parce qu'il se passe quand même quelques petites choses, mais très ancienne parce que c'est par elle que ça commence, c'est-à-dire la sexualité humaine commence par un changement radical qui est le fait que la femme est la seule femelle mammifère à se prêter à l'acte sexuel en dehors de la période d'Urut.
Donc là, on parle de l'origine, disons, biologique de l'espèce. Non, c'est pas...
Mais en même temps, biologique.
Un phénomène au départ biologique, Jacques André.
C'est surtout... Bon, un phénomène, si on veut, biologique, sauf que... c'est un moment où précisément l'instinct est congédié, c'est-à-dire dissociation, sexualité, reproduction, ça a quelques centaines de milliers d'années.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas une détermination biologique justement de la sexualité. C'est un moment biologique où la sexualité s'affranchit du biologique.
C'est ça, c'est-à-dire que lorsque l'on invente par exemple la pilule contraceptive, qui est une invention récente et qui est un progrès technologique considérable pour la sexualité des femmes notamment, bien sûr, en définitive, on n'invente rien, ça vient se greffer sur... la séparation sexualité-reproduction qui, elle, est très ancienne.
Que l'évolution elle-même avait déjà anticipé sur cette disjonction
On ne sait pas très bien comment et pourquoi ça se passe.
D'une fonction reproductive.
Voilà. Probablement lié à l'apparition du langage articulé. C'est en tout cas l'hypothèse la plus probable. C'est aussi contemporain de la question de la mort, le moment où la mort devient humaine, c'est-à-dire où les hommes se préoccupent de la mort de leurs congénères. Tout ça doit se passer à peu près dans les mêmes époques.
Au moment où, finalement, il y a, dans l'évolution de l'humanité, une sorte de marge qui s'ouvre au-delà de la survie biologique, proprement dit, de l'évolution, des déterminismes évolutifs, finalement.
Absolument. Et comme ça se passe, ça marque le corps des femmes et que c'est par le corps des femmes que ça passe, c'est avec elles, quand même, que ça commence. Ce qui fait que ce que les mythes reprennent, Ève et compagnie, reprennent dans le fond quelque chose. La sexualité dans la Bible commence par le geste d'Ève.
Oui, mais en même temps, Jacques André, vous dites que ça commence par les femmes et vous le dites aussi pour la libération sexuelle contemporaine. Vous le dites même au tout début d'un de vos livres très importants qui s'intitule « Parole d'homme ». Vous dites qu'il y a eu des vagues de la libération sexuelle et que la première a concerné la femme. Et ça, on va y revenir sur la libération sexuelle contemporaine, peut-être avec des guillemets. Mais malgré tout, quand vous dites... ça a commencé par la femme, y compris cette indépendance du sexuel. Mais les hommes, eux, ont ce privilège d'avoir leur plaisir sexuel indépendamment de la procréation, j'allais dire, tout le temps depuis.
Oui, sauf que... parce que l'excitation pour eux, effectivement, sauf qu'elle est aussi, elle était quand même relative. C'est-à-dire qu'une femelle en route, il n'y a rien de tel pour exciter un mâle dans le monde animal. Donc les choses étaient aussi complètement inséparables.
Oui, donc en fait, l'indépendance du sexuel chez l'homme avait besoin qu'il y ait cette indépendance chez la femme pour qu'il y ait une sexualité indépendante de la reproduction.
Tout à fait.
Et ça, c'est une sorte de première émancipation de l'humain qui, pour vous, ouvre aussi aux questions dont traite spécifiquement la psychanalyse. La psychanalyse se situe dans ce lieu où la sexualité est autre chose qu'une fonction.
Absolument, et même la psychanalyse, dans le fond, prolonge cette découverte, si l'on peut dire, en dissociant sexualité et génitale. Parce que tant qu'on reste sur la question du coït, on est toujours sur la question d'une équation sexuelle-génitale. La psychanalyse ajoute une dissociation et un démarquage supplémentaire en défaisant, en déliant en quelque sorte l'équation entre sexuel et génital. Sexuel, c'est beaucoup plus compliqué que génital. C'est un peu partout, ça touche à tout. Et d'ailleurs, ça touche tous les instincts, puisque chez l'homme, il n'y a pratiquement pas un seul instinct qui soit complètement à l'abri des détournements par la sexualité, l'oralité, l'analité, etc.
Oui, donc finalement, pour la psychanalyse, Jacques André, tout ce qu'on a l'impression de redécouvrir aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a du sexuel dans toutes les questions humaines, dans toutes les questions sociales, culturelles, qu'il y a cette singularité qui n'est pas une coupure entre le masculin et le féminin. Tout ça, la psychanalyse, au fond, l'a toujours su, comme on disait à un certain moment héroïque, la philosophie de la psychanalyse, c'était toujours déjà là, finalement.
Oui, mais en même temps, parce que c'était aussi un savoir, quand même, qui précédait la psychanalyse. Les mots de Platon dans la République sur la part sauvage de l'âme et sur ce que accomplissent les rêves. Vous prenez une phrase comme celle de Beaumarchais dans Le mariage de Figaro, faire l'amour par tout temps et boire sans soif, madame, il n'y a que cela qui nous distingue des bêtes. Bon, il fallait bien que Beaumarchais en sache aussi un petit morceau.
Mais alors, la sexualité qui est partout, avant de revenir sur la question féminine et de savoir pourquoi, quand même, ça change tout, finalement, de l'intégrer consciemment, finalement, et pas seulement dans un inconscient qui ressurgit malgré nous. La sexualité, est-ce que c'est seulement le plaisir, au fond, l'intensité la plus haute d'un plaisir qui vient traverser toutes nos fonctions, qui vient dominer même certaines de nos actions, ou bien est-ce qu'il y a aussi cette ambivalence dans la sexualité qui fait qu'elle n'est pas seulement une recherche d'un plaisir ?
Bon, que ce soit gouverné par un principe de plaisir, sans l'ombre d'un doute, sauf que c'est évidemment plus compliqué, qu'il y a aussi des aspects extrêmement délétères. Si vous prenez le sexe addict d'aujourd'hui, par exemple, condamné à passer ses nuits entières sur son écran pornographique, et pris dans une espèce de masturbation compulsive et qui détruit sa propre vie de cette manière. À la fois, le plaisir n'est pas complètement inexistant, mais l'aspect délétère finir par l'emporter, l'aspect de la destructivité. Mais même sans prendre le sexe addict d'aujourd'hui, le SAD, vous lisez SAD, et toute la dimension délétère, destructrice associée à la sexualité.
Donc finalement, là aussi, on s'approche des enjeux que l'on redécouvre aujourd'hui, mais que la psychanalyse affronte depuis sa création, son invention. L'opposition n'est pas entre ce qui est sexuel et ce qui ne l'est pas, comme s'il y avait le bien et le mal, d'ailleurs, sexualité étant bonne, archi bonne pour certains ou archi mauvaise pour d'autres, par opposition à son contraire. C'est plutôt que dans la sexualité elle-même, il peut y avoir du plaisir et des pathologies, du plaisir et de la souffrance. Et au fond, le rôle de la psychanalyse, c'est aussi de nous aider à vivre avec la sexualité.
Oui, à la fois pour, et en même temps, pas simplement pour, parce que, encore une fois, ça peut aussi mener à des formes complètement destructrices, mais en même temps, c'est une richesse considérable. C'est-à-dire que c'est aussi... Que peut-on faire dans la vie, dans le fond, sans une pulsion sexuelle énergique ? Enfin, c'est les mots de Freud prononcés en 1905.
C'est une citation ?
Absolument, ça reste complètement vrai, je crois. Il y a là quelque chose qui est aussi le vivant, le principe vivant, et le principe de la curiosité, ce qui fait nos plaisirs et nos investissements.
Alors, malgré tout, on la cache, cette sexualité, on a évidemment cette tendance à la recouvrir pour de multiples raisons. D'ailleurs, peut-être qu'on pourra y revenir, Jacques-André, mais est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la raison pour laquelle on cache aussi, finalement, non pas seulement la sexualité, mais j'allais dire la bisexualité humaine, c'est-à-dire le fait que... Alors, vous avez vous-même écrit deux petits que sais-je très importants l'un et l'autre, et qui donnent l'impression d'un partage. Vous avez publié successivement, je ne sais plus lequel a précédé l'autre d'ailleurs. Est-ce que la femme est venue en premier?
La femme d'abord, comme de juste.
Ah bon? Donc la femme vient toujours en premier. Donc la sexualité féminine, c'est un de vos que sais-je. Et puis la sexualité masculine. Et là, on a un peu l'impression, alors c'est peut-être la loi des petites encyclopédies, la loi du genre, si j'ose dire.
C'est la loi du genre.
Mais pourquoi avoir dissocié ces deux volumes?
Écoutez, parce qu'effectivement, c'était la loi du genre. Parce qu'il serait plus juste, par exemple, parlant de sexualité féminine, de parler aussi de la sexualité féminine des hommes. Et parlant de la sexualité masculine, de parler aussi de la sexualité masculine des femmes. Bon. Donc ça, ce serait psychanalytiquement plus exact. Alors, c'est présent dans chacun des deux volumes, si l'on peut dire. La question masculine, la question phallique est présente dans le que sais-je sur la sexualité féminine, et la question de la passivité, la question de la féminité est présente dans le que sais-je sur la sexualité masculine. Mais c'est vrai que c'est un partage trop simple et qui néglige toute la complexité bisexuelle de chacun d'entre nous.
C'est une des grandes découvertes de la psychanalyse, malgré tout, cette bisexualité psychique. À la fin de l'introduction de la sexualité féminine, vous écrivez cela, c'est-à-dire vous écrivez, et il y a résumé déjà des grandes thèses que l'on redécouvre aujourd'hui, mais que la psychanalyse a en son cœur, je cite, la dimension psychosexuelle de la sexualité humaine, la bisexualité psychique, la plurivocité des identifications, tout cela constitue à la fois les découvertes de la psychanalyse et les conditions de possibilité de son exercice. Alors quand je dis que tout le monde redécouvre ça aujourd'hui, c'est pas entièrement vrai, on redécouvre le féminin. Et la question de l'égalité entre le féminin et le masculin, ou plutôt entre les hommes et les femmes. Mais est-ce que vous avez l'impression que cette revendication sociale tient compte de ce que vous dites là, c'est-à-dire de, notamment, ce que vous venez de rappeler, la bisexualité de chacun d'entre nous, de chaque être humain finalement?
Oui et non. Je pense qu'il y a un niveau où la revendication d'aujourd'hui se nourrit effectivement de ces connaissances, de ce savoir acquis, de cette complexité humaine comme cela, et qui est, au lieu d'avoir cette image trop simple de chaque sexe enfermé dans son propre sexe, sur un modèle, dans le fond, qui effectivement ne tient pas la route dès que l'on entend les choses d'un petit peu près. Et en même temps, il y a aussi parce que le discours d'aujourd'hui est aussi une idéologie, qu'il est aussi pris dans ses propres croyances, dans ses causes à défendre.
Vous voulez dire même le discours féministe?
Bien entendu, il a évidemment ses pièges. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, ça ne supprime l'inconscient pour personne, et ça supprime donc pour personne la part d'inacceptable en soi. C'est pas parce qu'on est féministe pour autant que l'inconscient d'une femme féministe est féministe. Il n'y a pas d'égalité dans l'inconscient d'ailleurs.
Mais pourquoi est-ce que l'inconscient refuse, pourquoi est-ce que c'est inacceptable d'admettre que il y a au départ dans chaque être humain, qui vient d'ailleurs du masculin et du féminin, cette dualité, pourquoi est-ce qu'il y a là quelque chose d'inacceptable? Est-ce que c'est social? Vous dites que c'est l'inconscient lui-même qui le refuse.
Il faut nuancer indiscutablement, parce qu'on ne peut pas dissocier. L'inconscient se nourrit du monde qui l'entoure, de l'éducation reçue, de la société dans laquelle on vit. On n'imagine pas que les choses pour une femme se composent inconsciemment exactement de la même manière à Paris et à la Mecque.
Bon, ou au XVIIIe siècle,
ou au XVIIIe siècle, ou à une autre époque. C'est-à-dire qu'il y a, ces écarts culturels sont des écarts qui, bien sûr, marquent les choses. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un fond commun, compliqué à définir, mais qu'il y ait quelque chose qui excède aussi. Ève, les textes, l'épopée de Gilgamesh qui a, je crois, 3500 ans, nous parle toujours. Les textes les plus anciens connus, les mythes les plus anciens nous parlent, alors même qu'ils appartiennent à des cultures complètement hétérogènes et que cependant on y retrouve des figures que l'on connaît.
Donc il y a des structures, vous voulez dire qu'il y a quelque chose quand même qui tient à la structure de l'inconscient, comme on disait dans d'autres temps.
Oui, parce que comme le propre de chaque être humain est de naître de façon complètement prématurée, d'être complètement dépendant de l'éducation par les parents, en général père et mère, il y a donc des situations comme ça, anthropologiques communes, si l'on peut dire, qui ne peuvent pas ne pas produire des choses communes, y compris les plus profondes.
Quand vous dites des situations anthropologiques, Jacques André, est-ce que vous voulez dire, parce que c'est aussi dans le débat contemporain sur le masculin et le féminin, est-ce que la nécessité que certains renvoient à du symbolique, de distinguer absolument père et mère dans les fonctions d'identification aussi, dans les relations qui constituent la subjectivité humaine, distinguer le père et la mère finalement, est-ce que ça fait partie des structures aussi qui rétroagissent sur l'identité sexuelle, c'est-à-dire sur le masculin et le féminin?
Là, les questions aujourd'hui sont évidemment considérablement modifiées un petit peu, parce que le monde n'est plus ce qu'il était et que les changements sont considérables. De là à penser que ça abolisse dans le fond les écarts et les différences, ça c'est d'une très grande naïveté, inversement. Bon, qu'un discours égalitaire veuille aplanir la totalité des écarts et des différences et les supprimer, voir l'idée comme cela qu'on passerait dans le fond d'une position sexuelle à une autre comme si de rien n'était, ce sont des naïvetés pour le psychanalyste. Bon, mais en même temps, ça peut devenir des points de vue tellement rigoureux, enfin défendu plutôt avec exigence, voire et une idéologie, et croyance, que c'est difficile de les combattre. Mais en face de ça, le psychanalyste de ce point de vue-là est dans une position particulière, parce qu'il n'a pas à dire ce qui est bien ou ce qui doit l'être, etc. Il écoute, il entend. Voilà.
Il examine les paroles, comme vous dites, il entend, les souffrances aussi des uns et des autres.
On peut très bien, je prends juste un tout petit exemple sur l'exemple que vous venez de donner, on peut très bien avoir un homme homosexuel, par exemple, vivant en couple avec un homme homosexuel, très désireux d'avoir un enfant, et on l'entend dans le désir qu'il sien, un désir très féminin de porter. Mmh. Il ne le portera pas, il ne peut pas d'avoir un enfant. Et cet homme décide de faire un enfant avec une femme homosexuelle, une amie qu'il connaît, etc. Mmh. Et il dit, par exemple, je n'imagine pas que ma mère, que mon enfant n'est pas une mère, ne connaisse pas une mère. Donc voilà, il y a quelque chose qui peut se jouer par-delà ces formes complètement nouvelles de la rémanence et de la permanence de distinctions anciennes.
Donc au fond, il y aurait toujours deux erreurs. C'est d'à la fois plaquer des normes sur des inconscients individuels qui sont toujours plus compliqués, oui. Et en même temps de croire qu'on peut jouer avec ce qui nous constitue de façon totalement aléatoire, qu'il n'y a pas de principe ou qu'il n'y a pas de structure.
Non, même chose d'ailleurs pour les couples de femmes homosexuelles, en tout cas pour celles que je peux entendre, celles qui parlent sur le divan, le souci qu'elles peuvent avoir alors même qu'elles ont entre elles un enfant qui est en général fait par don de sperme, etc., qu'il y ait dans la famille, qu'il y ait entre eux de la présence masculine, c'est-à-dire qu'existe aussi le principe masculin quelque part. Donc on ne se débarrasse pas de l'autre sexe d'un revers de main.
Alors on a quand même l'impression, Jacques-André, pour revenir au thème un peu de cette semaine, la façon dont je le propose, de manière peut-être un peu réductrice, on a quand même l'impression que les dénis sont un peu dissymétriques. C'est-à-dire que quand même, la revendication aujourd'hui du féminin vient quand même sur le fond qu'on dénie plus la part du féminin, disons, dans la vie humaine, que la part du masculin. Il y a du déni du sexuel en général, mais quand on désigne l'être humain, on parle de l'homme. Quand on a du mal à mettre le féminin en premier, on dit les hommes et les femmes, il y a toute cette revendication qui vient s'inscrire jusque dans la langue, avec l'écriture inclusive pour certaines, ou certains. Il y a toute une revendication qui vise à dire finalement, comme on disait dans les années 60, que la langue était fasciste, que la langue est masculine, le féminin vient quand même se rappeler plus difficilement à notre inconscient ou à notre conscience, et que quand il revient socialement, politiquement, dans une revendication, ça, c'est quand même important. Qu'est-ce que vous pensez de cette dissymétrie, Jacques-André ?
Je suis d'accord avec vous, Frédéric Worm. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, et en même temps, il faut en souligner toute la complexité. C'est-à-dire que la question du pouvoir, elle est marquée comme masculine. Et elle est marquée comme masculine bien au-delà de nos sociétés. Elle l'est beaucoup plus que dans d'autres sociétés que la nôtre. Elle l'est aussi dans la nôtre et elle l'est depuis toujours. Bon. Donc à partir du moment où la question de l'égalité politique se pose, ce que nos démocraties imposent de plus en plus, cette question de l'égalité est toujours le problème de l'égalité des femmes par rapport aux hommes.
Et pourquoi est-ce que le pouvoir est masculin, au fond, Jacques-André ? Est-ce que ça, c'est inéluctable ?
Il y a une phrase de Sade qui a le mérite d'être à la fois violente et assez remarquable. Il dit quelque part, il n'est d'homme qui ne se sente despote quand il bande. C'est-à-dire cette identification comme ça de l'érection,
de la puissance
phallique, de l'érection un petit peu, et de la question du pouvoir. Tous les symboles du pouvoir sont des symboles d'érection, c'est pas... Le pouvoir appartient à ceux qui se dressent, pas à ceux qui se baissent. Bon. Et on voit bien comment ces distinctions-là recoupent facilement une distinction masculin-féminin.
Est-ce que c'est inéluctable, au sens où est-ce que c'est vraiment, d'après vous, l'imaginaire vient vraiment des postures corporelles, finalement, du phallus comme donnée anthropologique et symbolique absolue, ou bien est-ce qu'il n'y a pas simplement des habitus sociaux? Et on a aussi dans la tradition, et aujourd'hui c'est d'ailleurs très contesté, l'idée qu'il y a un pouvoir caché des femmes, qui réside dans la séduction, dans le plaisir lui-même, dans une sorte de pouvoir indirect. Et,
oui.
Mais aujourd'hui, est-ce que la revendication d'égalité vient juste dire justement non, il n'y a pas la force et puis le pouvoir de la faiblesse, le pouvoir des faibles, le charme?
Oui, au moment de la Révolution française, les futurs révolutionnaires accusaient l'ancien régime d'être l'administration nocturne des femmes.
Bon, les courtisanes.
Les courtisanes, voilà, le pouvoir des courtisanes. Donc l'idée, y compris de Olympe de Gouges et de quelques hommes et femmes de 89, 90, 91, et de contester cela. Nous sommes dans la suite de ce mouvement, dans le fond, parce qu'il y a des textes remarquables sur l'égalité homme-femme, Condorcet, Olympe de Gouges, etc., qui sont publiés à cette époque-là. Donc la chose est là, ceci dit, c'est toujours une revendication. Aujourd'hui, le phallus est un symbole. C'est pas un pénis.
C'est ça, c'est pas une donnée biologique.
C'est pas une donnée biologique. La différence fondamentale entre le phallus et le pénis, c'est que le phallus est en érection absolument permanente et qu'il ignore le fiasco et la puissance.
Donc le phallus, définissons-le, c'est l'image que les humains se donnent de la puissance masculine. C'est pas une partie du corps.
Absolument pas. C'est ce que promenait le pharaon dans les rues d'Alexandrie pour célébrer son propre pouvoir. Bon.
Et est-ce qu'il faut, donc dans les années aussi, de la libération féministe en France dans les années 68, on critiquait le phallus justement, est-ce qu'un mouvement social égalitaire passe par la critique de cette image-là du pouvoir, ou pour vous, au fond, il faut l'admettre comme une donnée de l'inconscient et faire passer chaque chose dans son ordre, je dirais, la revendication politique ou politique, et puis le travail
Il y a toute une complexité, le phallus concerne tout le monde, hommes et femmes, je veux dire que... Le phallus lesbien, pour prendre les jeux classiques bien connus, etc., ainsi de suite. Bon, il y a toute une sexualité, une des homosexualités féminines, pas toutes les homosexualités féminines, pour lesquelles le godemiché fait partie des instruments du plaisir et de la sexualité. Mais ça ne définit en aucune façon toutes les homosexualités féminines, il s'en faut. Ça dit une chose par contre très forte, c'est qu'il n'y a pas de scène psychique sur laquelle on ne soit présent l'autre sexe que le sexe anatomique.
Donc le phallus n'étant pas une partie du corps, finalement, il devient une partie de l'imaginaire de tout être humain.
Absolument.
Exactement comme le contraire. La féminité n'étant pas une définition biologique, chacun a les deux dimensions de l'imaginaire en lui. Et c'est la vraie égalité complexe, qui n'est pas une réduction, une assignation, mais au contraire une complexité égale chez tout le monde.
Sauf que c'est pas nécessairement une égalité, parce que dans l'inconscient, domination et soumission, ça marche très bien. Je veux dire que l'inconscient n'a rien contre la domination, il n'a rien contre la soumission, y compris sous les formes les pires. Bon. L'inconscient, s'il y a quelque chose que l'inconscient n'est pas, c'est certainement égalitaire.
Donc la revendication d'égalité doit aussi se faire en tenant compte de l'inconscient, on va le dire comme ça.
Je ne crois pas trop.
Même pas.
Je pense qu'elle est secondaire. Elle concerne la conscience, la vie politique, les relations humaines, etc. Mais l'inconscient n'est pas concerné d'une certaine façon. Ça ne peut être que contre lui.
Oui, c'est ce que je veux dire. Tenir compte, ça peut aussi vouloir dire résister, sinon il va revenir avec aussi ce que vous venez de dire. Il ne faut pas idéaliser l'inconscient. C'est pas parce qu'il a du masculin et du féminin qu'il va être égalitaire.
Non.
Il faut donc travailler aussi sur nos représentations de nous-mêmes. La question politique passera quand même par cette question psychique. Et vous nous avez proposé, pour jalonner cette conversation, une de ces expressions qui, pourtant... nous dit quelque chose de l'amour. No other love.
No other love.
Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, les femmes changent tout. Notre troisième rencontre sur ce thème, ce soir avec Jacques André, psychanalyste, qui a écrit à la fois sur la sexualité féminine, la sexualité masculine, l'inconscient et politiquement incorrect, ce qu'on vient de discuter juste avant qu'on entende Jacques André, cette chanson qui ne se place pas du côté de l'inconscient politiquement incorrect, mais plutôt du côté de la sublimation de la sexualité dans l'amour, Jacques André. Oui, c'est une magnifique sublimation dans une voix féminine ici.
Très, très belle, très, très belle, très forte chanson, oui, magnifique.
Vous, je pense qu'il y a... Vous l'avez choisie pour parler du féminin,
oui, sans doute, parce qu'elle me touche, parce que je l'adore, je l'aime beaucoup, beaucoup cette chanson, je l'écoute assez souvent, comme ça. Et voilà, il y a dans ses voix, effectivement, féminines, quelque chose qui parle de l'amour, probablement peut-être mieux qu'un homme ne sait jamais le faire. Et il y a... Les hommes et les femmes, c'est aussi une différence, n'ont pas l'amour, la relation qui est la même, même si toute généralité ici est fragile.
Pourquoi exactement cela, Jacques André, si l'amour est justement une forme de sublimation de la sexualité qu'il adresse à quelqu'un? No other love, ça veut aussi dire no other love than you, enfin c'est une adresse individuelle. Les hommes aussi peuvent être amoureux,
non, sans Jacques André. Sans l'ombre d'un doute, et l'homme peut se perdre dans l'amour comme la femme peut le faire. Mais en même temps, il y a quand même quelque chose... Je prends juste l'exemple d'une jeune femme parisienne avec la vie amoureuse et sexuelle d'une femme parisienne d'aujourd'hui et qui dit « Je ne connais pas une seule de mes amies qui n'est pas le fantasme de Cendrillon. »
Le fantasme de Cendrillon.
Voilà, donc le fantasme du prince charmant. Quoi. Ouais. Toute femme moderne que l'on soit, tout aussi branchée de tout point de vue, y compris du point de vue de la vie sexuelle, quelque chose de ce fantasme de
Elle a envie d'être enlevée par un cavalier.
Voilà. Et puis l'amour de la vie, même si, encore une fois, c'est pas aujourd'hui comme ça que les choses se passent, mais cette idée-là, comme ça, de l'amour d'un seul unique, bon, ça se rencontre quand même beaucoup moins chez les hommes, même si ils peuvent aussi y être attentifs, bien sûr, mais ce sentiment de l'amour, que l'on peut toujours perdre l'amour, que l'amour est d'une extrême fragilité, est quelque chose qui est une sensibilité féminine quand même plus forte.
Mais alors, comme vous le disiez avant qu'on entende cette chanson, il y a du féminin chez tout le monde, y compris chez les hommes. Et ce que vous dites me rappelle quelque chose que j'ai appris récemment, une controverse autour de « Ne me quitte pas » de Jacques Brel, puisqu'on est dans la chanson, où à l'époque, y compris Edith Piaf, elle avait été très violente contre « Ne me quitte pas » et elle avait dit, écrit à Jacques Brel même en disant « Un homme ne doit pas chanter ça ». C'est-à-dire supplier une femme, être dans l'amour unique et dans le chagrin d'amour, ça n'est pas masculin. Alors quand même, vous disiez que le masculin pouvait être présent chez les femmes, celles qu'on appelle des femmes, et le féminin... Est-ce que Jacques Brel était dans la transgression en chantant « Ne me quitte pas » ?
Il y avait beaucoup de féminité chez Jacques Brel. Le nombre de chansons autour de l'amour perdu et de l'amour trahi chez lui, elles sont...
Pourquoi est-ce que ce serait féminin cette sensibilité-là, ce chagrin-là?
Qu'est-ce que lui dit Edith Piaf? En gros, tiens-toi droit, soit phallique, soit dominant, et soit...
Et vous êtes d'accord avec Piaf, là? Est-ce qu'elle n'est pas un peu quand même normative?
Bien sûr qu'elle l'est, mais Piaf, c'est l'homme à la moto, bon. Donc, c'est peut-être une autre image, etc. Est-ce que, ceci dit, Piaf, dans sa vie, n'a rencontré que ce genre d'homme? Je ne suis pas sûr, mais...
Donc au fond, il y aurait cette répartition des rôles, Piaf étant peut-être plus masculine que Jacques Brel, qui aurait quelque chose de féminin. Ce que vous montrez aussi dans votre livre « Parole d'homme », c'est que la parole masculine est travaillée par la présence du féminin. Donc au fond, vous reconnaissez, au fond, finalement Jacques André, en tant que psychanalyste, cette dimension... Ce partage symbolique du masculin et du féminin, ce que vous dites juste, c'est que chacun compose sa vie avec les deux.
Oui, avec les deux. Et c'est une richesse considérable, c'est-à-dire que la possibilité de passer d'une position à l'autre, psychiquement, intérieurement, pas simplement sexuellement. Bon, dans les jeux sexuels, c'est bien sûr observable, d'une certaine façon. Qui pénètre, qui est pénétré? Objectivement, c'est assez simple. Psychiquement, c'est quand même nettement plus complexe. Et puis, il n'y a pas que la question de la pénétration. Il y a aussi, bien sûr, tous les jeux sexuels, tout ce qui tourne, ce qu'on appelle préliminaire. Tout cela est d'une complexité où le féminin et le masculin s'échangent. Bon, se joue. Et ça se joue aussi en dehors de la sexualité elle-même. C'est-à-dire que la possibilité de faire jouer, effectivement, sa part féminine, un acteur qui On peut être à la fois... Alors, il y en a qui sont plus doués que d'autres. C'est sûr que James Stewart est plus doué pour faire pour témoigner de sa part de féminité que John Wayne, ça c'est clair. Bon, mais James Stewart était un bien plus grand acteur que John Wayne.
Oui, parce John qu'il est plus, une plus complexe.
Beaucoup plus complexe, beaucoup plus ambigu, énormément d'ambivalence, etc. Alors qu'il n'y a pas ça, évidemment, chez ce morse, ce phallus, ce simple phallus qui est John Wayne, et qui est d'une simplicité, et qui pour le coup est un acteur un peu fruste, donc il... Tout cela, on pourrait l'étendre bien au-delà de l'acteur, de l'ensemble des arts, de la production culturelle.
Mais alors, pour vous, Jacques André, donc cette complexité, le vrai critère finalement, c'est de savoir si elle est destructrice ou pas, si elle permet de se créer, de créer du commun, de peut-être une vie heureuse, par opposition à des destructions. Est-ce que l'égalité politique entre les hommes et les femmes est un instrument de cette liberté individuelle, est-ce qu'il faut qu'il y ait des règles juridiques claires, comme il y a l'interdit du meurtre? On sait que l'inconscient peut être meurtrier, bon, la loi l'interdit, oui. Finalement, elle permet à l'inconscient meurtrier de trouver d'autres voies, peut-être culturelles, de se sublimer, justement. Est-ce qu'il en est de même pour cette complication amoureuse, compliquée par la destructivité aussi? Est-ce qu'il faut des règles claires, l'égalité homme-femme, pour qu'au moins ce jeu, cette ambiguïté, cette ambivalence intérieure, voilà, ne soit pas destructrice.
Oui, mais l'égalité politique et démocratique, sans être complètement acquise, parce qu'elle est toujours un petit peu incertaine, elle est quand même relativement établie dans les pays, en tout cas dans les démocraties occidentales.
Vous n'êtes pas surpris par quand même le fait qu'il y ait des régressions régulières et qui obligent à des revendications?
Non seulement il y a des régressions régulières, mais rien ne nous promet que demain il n'y aura pas un retour de bâton sévère. Je veux dire que si vous prenez par exemple toute la montée du national-populisme ici et là, c'est une idéologie qui jamais ne s'accompagne de l'égalité homme-femme. C'est inévitablement une idéologie qui promet le retour de la femme à la maison et à la maternité. Il y a quelque chose... On connaît, l'histoire est parlante à cet égard. Et il suffit d'entendre les discours ici et là pour entendre bien que ce n'est pas en aucune façon une conquête définitive.
Comment est-ce que vous expliquez le lien, Jacques André, justement, entre ce national-populisme, comme vous l'appelez, qui peut même devenir fasciste ici ou là, et cette assignation des femmes, enfin, cette dissymétrie de pouvoir, enfin, ce refus de l'égalité? Comment est-ce que vous l'expliquez?
Je sais pas, probablement parce qu'il y a aussi beaucoup d'incertitudes dans ce pouvoir masculin et qui a besoin donc de se réaffirmer de façon à la Trump, si je puis dire, en multipliant les signes.
On voit très bien ce que vous voulez dire.
Voilà. En multipliant les signes de la virilité, en affichant comme ça une espèce de puissance qui, dans le fond, indique quand même fondamentalement la fragilité. Pourquoi en rajouter trois couches si on est absolument sûr et tranquille de la puissance que l'on exerce?
Et c'est au fond cette angoisse d'impuissance qui d'ailleurs est une angoisse sexuelle au fond,
oui,
finalement, qui motiverait cette fixation de la puissance sur la masculinité contre la féminité.
Il y a quelque chose qui est absolument remarquable. La libération sexuelle a quand même modifié ce qu'on appelle libération sexuelle, considérablement modifié les comportements depuis quelques décennies. Ça n'a strictement rien changé à la symptomatique sexuelle. C'est-à-dire du côté des femmes...
Dans la clinique...
Absolument rien. Frigidité, vaginisme du côté des femmes, impuissance, fiasco, éjaculation précoce du point de vue des hommes, rien n'a changé. Je dirais même que dans mon expérience, peut-être que je vois plus d'hommes venir avec la plainte de l'éjaculation précoce que je ne le voyais il y a par exemple à peu près 20 ans. Alors j'en tire aucune conclusion parce que statistiquement l'expérience du psychanalyste n'est pas pertinente, mais en aucun cas, ça c'est sûr en tout cas, ça ne change rien à la symptomatie sexuelle et donc aux différentes formes d'impuissance chez l'homme.
Ça ne change rien, mais du côté de la destructivité malgré tout, du passage à l'acte, Jacques André, quand même, si c'est moins la liberté sexuelle. D'ailleurs, aujourd'hui, le thème, peut-être qu'en mai 68, c'était la liberté sexuelle. Aujourd'hui, c'est l'égalité sexuelle.
Oui,
c'est
mais
pas tout alors, il y a peut-être liberté, égalité sexuelle.
Oui, en même temps, elle est complexe parce que si vous prenez l'envahissement d'Internet par la pornographie, par exemple, qui est quand même ce par quoi l'adolescent d'aujourd'hui entre dans la sexualité, cette pornographie est... disons au moins 95% dominé par des figures masculines qui soumettent et qui dominent et qui écrasent et qui sinon violent mais d'une certaine façon s'approchent toujours du geste comme cela de la du rapt.
Du rapt, oui.
Mais cette sexualité, elle, pornographique, se déroule complètement à l'ombre et sans être dérangée en aucune façon par le fait que, par ailleurs, la démocratie, l'égalité est exigée juste à côté.
Alors justement, là, il y a deux mouvements politiques, malgré tout, sur ces questions. Il y a un mouvement qui dira il faut limiter l'égalité aux questions, dans son ordre, au fond, aux questions politiques, et puis aux violences, disons, qui nuisent concrètement dans la vie réelle aux uns et aux autres. Disons un égalitarisme un peu minimal, hein, qui va dire c'est le politique dans son ordre. Et puis, il y a une revendication qui va s'étendre à ces représentations, à ces images. C'est-à-dire, il faut interdire les images publiques de domination ou de viol. Pour vous, en tant que psychanalyste, vous pensez que... Quel rôle doit jouer la loi, finalement, le cadre égalitaire public?
Je pense, d'abord, c'est vraiment pas aux psychanalystes de
si, quand même, je pense qu'on parle trop peu de la psychanalyse dans ce débat, donc malgré tout, tout ce que vous dites est quand même très important.
Certes, mais elle ne peut pas dire ce qui est le bien à proprement parler. Là, il y a quelque chose qui... Ce qu'elle peut dire, par contre, c'est peut-être dénoncer l'illusion qu'on pourrait, par exemple, sortir du harcèlement. Le harcèlement est devenu un délit, à en préciser les formes. Sauf que la sexualité est harcelante. Et on ne va pas supprimer le caractère harcelant de la sexualité. Alors, bien entendu, on peut régler un certain nombre de choses, régler autant que possible les comportements. On n'empêchera jamais un homme de se retourner sur le passage d'une femme et de découper en morceaux les fesses d'un côté, les jambes de l'autre, et ainsi de suite. C'est-à-dire que là l'interdit ne pourra jamais fonctionner. Ce type de découpage qui est assez proprement masculin, les femmes ne découpent pas les hommes, si je puis dire, dans le regard qu'elles portent de la même manière.
Bon.
Donc voilà, ça, ce sont des choses qui échappent et qui échapperont nécessairement toujours, peut-être qu'il faut dire heureusement, à une législation dont on ne voit pas très bien ce qu'elle pourrait être.
Finalement, c'est quand même sur le passage à l'acte, la différence de Lacandré. C'est-à-dire, un homme peut se retourner, mais pas mettre la main, la parole même, en acte, parce que là, ça devient un acte. Et là, il faut quand même la loi. C'est comme...
Il ne peut plus mettre la main aux fesses.
Le désir meurtrier des humains que la psychanalyse nous a aussi appris à reconnaître. Vous avez écrit d'ailleurs un livre aussi sur le fratricide.
Oui.
Ce désir fratricide, à un moment quand même, faut l'empêcher de passer à l'action, sinon...
Oui, la question du consentement, la question de l'accord, la question inversement de l'agression, du harcèlement destructif, bon, tout cela, que ce soit interdit. On est tous démocratiquement d'accord, sans l'ombre d'un doute.
Mais c'est même ce que Freud appelait le travail de la culture, qui consiste à la fois à reconnaître ces forces intérieures et à les... aller circonscrire, disons, aller limiter. Alors on peut dire ce travail de la culture, il est toujours sur une ligne de crête, parce que si on interdit tout, on ne fait que renforcer les pulsions. Si on n'interdit rien, il y a le passage à l'acte.
Absolument.
Pour vous, la démocratie est une éducation, est proche de la psychanalyse. Des psychanalystes comme Winnicott ont pensé que la démocratie était justement une question de maturité psychique.
Oui, ça, je crois qu'il y a, indiscutablement une complicité, si je puis dire, de la démocratie et de la psychanalyse. La psychanalyse n'est pas exerçable en dehors d'un espace démocratique. On ne peut pas, si par exemple vous êtes dans un pays où il y a une police religieuse ou une police politique, comment faire confiance à l'homme qui est assis derrière vous, tout ce que vous pouvez lui confier et lui dire, c'est impraticable.
Donc la tyrannie empêche la psychanalyse, mais inversement, la démocratie la requiert. Parce que, par exemple, pour supporter son désir dans un monde social où les corps se montrent, pour ne pas que tout ça devienne une sorte de harcèlement généralisé, par exemple sur les plages, ou même sans parler des plages, dans le métro ou dans les espaces publics, il faut une maturité individuelle et collective. Qui s'acquiert aussi grâce à la psychanalyse.
La psychanalyse propose une aventure tout à fait exceptionnelle à celui qui veut bien s'y prêter. Bon, il y a une expérience qui est absolument unique. Il n'y a pas d'autre lieu.
Comment est-ce que vous la décririez, Jacques André, vous qui l'a pratiqué, l'a raconté aussi toujours d'ailleurs par des cas individuels et des paroles cliniques?
Il arrive parfois qu'un patient comme cela au début s'inquiète un petit peu, mais dans le fond, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je risque? Et il m'arrive parfois, parce que l'angoisse est un peu trop forte, de répondre, ce que vous risquez, devenir plus libre qu'avant. Et c'est tout un problème, parce que la liberté politique, tout le monde la souhaite, la liberté psychique, c'est beaucoup moins évident. Bon. Il y a quelque chose d'angoissant dans la liberté psychique, dans l'espace que l'on gagne sur l'inconscient, sur ce que l'on se permet de penser, sur ce que l'on se permet de rêver, etc. Il y a quelque chose contre quoi le sujet construit ses propres prisons, en général ses propres entraves. Ce qui le limite, c'est moins le monde extérieur, bien souvent, que les
forces intérieures.
Que les forces intérieures et les murs qu'il dresse contre lui-même.
Et à la place de ces murs et de ces prisons, il y a une liberté qui surgit, mais qui, comme toute liberté dans la grande théorie démocratique, s'impose à elle-même ses propres limites. C'est-à-dire, c'est moi-même qui vais m'interdire d'aller tuer, violer, et c'est pas une sorte de peur de le faire qui va m'y retenir. Au contraire, c'est une sorte de forme de maturité, justement.
Que la liberté de l'un commence et s'arrête en même temps là où commence et s'arrête celle de l'autre. Bon, le principe est politique, il vaut bien entendu à l'intérieur de la psychanalyse elle-même.
Il y a aussi beaucoup de gens, de philosophes, de sociologues, parfois très, très contents de ce qu'ils disent, qui disent que dans notre société démocratique, les liens amoureux se dissolvent, qu'il n'y a plus les formes traditionnelles qui encadraient toute la vie, et que du coup, l'amour n'a plus de cadre. Est-ce que vous pensez que les couples démocratiques, la vie amoureuse dans une démocratie, a sa solidité, justement, sa maturité, et même que c'est une des conditions de la vie libre?
Oui, je crois qu'on confond complètement deux choses, qui sont les organisations familiale, la possibilité aujourd'hui, la mobilité d'une vie comme ça entre un homme et une femme, ou entre deux hommes, ou entre deux femmes, le fait même qu'il y ait on ne soit plus condamné à la permanence et à l'unicité du partenaire toute une vie par une règle sociale et de mariage qui formatait les choses auparavant. Bon, les choses ont changé. Pour ma part, la question de l'amour, par contre, n'a pas bougé d'un pouce.
Voilà, c'est ça l'essentiel du lien interindividuel.
Oui. Alors, il devient plus inquiet, c'est plus compliqué, c'est-à-dire qu'il y a sans doute des inquiétudes et des angoisses d'époque. Hein. Si vous prenez par exemple, c'est clair, si on prend l'exemple des femmes, c'est évidemment particulièrement saisissant. Aujourd'hui, la femme moderne, la femme d'aujourd'hui, en gros, ne veut pas avoir d'enfants avant 26, 27, 28 ans, disons, et elle ne veut surtout pas en avoir après 40. Bon, résultat, la fenêtre reproductive devient une fenêtre relativement étroite, et si la femme en question tient ce que l'enfant est un père, et un père qui compte et qu'elle aime, et ainsi de suite, bon, tout cela rend évidemment les conditions sociales, politiques et amoureuses, si je puis dire, dans une sorte de fragilité qui apparaît de manière...
C'est aussi une force, d'après ce que vous venez de dire. Cette fragilité est aussi une force,
Jacques. Je trouve qu'un des mérites paradoxal un peu de notre époque où les choses comme ça sur la bisexualité, les homosexualités, fait que bien des choses ont varié, c'est aussi de restituer toute l'âpreté et toute la difficulté de la relation homme-femme. C'est-à-dire que, dans le fond, elle réapparaît pour elle-même, puisqu'elle n'est plus obligée par les formes sociales du mariage et de la reproduction, si je puis dire, elle apparaît davantage pour son propre compte, et pour le coup, elle apparaît aussi davantage sous son âpreté, sa difficulté.
Donc on boucle un peu la boucle aussi, là, Jacques-André, c'est-à-dire le masculin et le féminin qui se sont émancipés de, finalement, des fonctions reproductrices initiales, doivent maintenant trouver des modes de cohabitation et de à la fois intime dans chaque sujet et entre les sujets dans une société qui se construisent elles-mêmes et sans critère a priori, avec le seul critère peut-être, vous disiez l'amour n'a pas bougé d'un pouce, c'est une formule magnifique, mais son adversaire est toujours là, il y a la haine, il y a la destruction, c'est ça le vrai adversaire finalement.
Ah, absolument, c'est toujours le même. Le vieil antagonisme d'Empédocle, de l'amour et de la discorde, nous y sommes
dont
toujours.
Freud se réclamait finalement.
Absolument.
C'est ça qui nous travaille de l'intérieur.
Oui, toujours.
Et on le déplace sur masculin, féminin.
En espérant toujours, évidemment, que le côté éros l'emporte sur le côté destruction et destructivité. Et toujours une espèce d'inquiétude permanente, que ce soit au niveau de la culture et au niveau des vies individuelles.
Et espérons, Jacques-André, qu'on ne se trompe pas de combat et que finalement ce soit ce combat-là qui l'emporte dans la question féministe et féminine qui est quand même essentielle aujourd'hui.
Absolument, oui.
Je vous remercie beaucoup, Jacques-André.
Merci, Frédéric Worms.
Merci infiniment. Matière à penser, c'était notre troisième conversation pour savoir si les femmes changent tout. Ce soir avec Jacques-André, avec et grâce aussi à Swad Boukorsa, Joséphine Lampreya, Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Worms. Je vous donne rendez-vous demain pour notre quatrième rencontre pour parler des femmes qui changent tout, cette fois-ci avec Fabienne Brugère. À demain.